Tellement important. En tout cas, très heureux d'être là et de voir des personnes qui s'attachent de plus en plus au Seigneur et d'autres qui grandissent dans la foi. C'est magnifique. Alors, sans tarder, je vais prier, je vais prendre ce moment dans la prière après quoi et je partagerai sa parole. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous venons auprès de toi. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu sais toutes choses. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui sais toutes choses. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es le Dieu et le Lame, le Dieu qui est le Dieu de, qui va dans le passé, dans le présent, dans le futur. Le Dieu qui gère le temps, sois béni. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit ta parole. Et en même temps, toi, Jésus, le soleil de justice, dont dans ces lasers, il y a la guérison, dit ta parole. Merci pour la guérison spirituelle, émotionnelle, physique, relationnelle. Dans tous les domaines, Seigneur, que tu amènes les guérisons. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ, et je déclare lier les puissances des ténèbres, le pouvoir de l'incantation, de la sorcellerie, tout ce qui vient de l'enfer soit brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je rends sourd, aveugle, muet, sans action, ces démons planqués, je les rends sans force et sans puissance, dans les vies, dans les cœurs, dans ce lieu, autour de ce lieu, et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges que tu déploies en notre faveur ce matin, et que personne ne sort les mains vides. Merci Seigneur de ce que tu me fais grâce, Seigneur, nous comptons sur toi, je compte sur toi, cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Merci, merci de ce que tu écoutes nos prières et de ce que tu nous exauces tout le temps. Merci de oindre ta parole dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. 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 Donc, le titre que j'ai choisi, c'est « Qu'en est-il de notre peur ?» Qu'en est-il de notre peur ? Voyez-vous, il y a beaucoup de formes de peur. Nous vivons dans un monde marqué par une peur collective. Vous n'avez pas remarqué ? Toujours on parle des guerres, donc il y a l'Ukraine, Amérique du Sud, Iran, Israël, Nigeria, Gaza. Et ben tout le temps c'est toujours on alimente cette peur. On parle toujours de la guerre, donc la peur de la guerre. Mais aussi il y a la peur de la pandémie. Hein, vous avez entendu tout ça, Covid, tous les virus et tout ça, donc c'est cette peur aussi qui paralyse beaucoup de gens. Il y avait un jour j'ai vu un petit théâtre qui disait ceci: tout bien portant est un malade qui s'ignore. Alors c'est juste créé. Ça veut dire, ben tu ignores, mais tu es quand même malade, voyez-vous. Créer la peur telle dans les cœurs des gens. Donc c'est incroyable. Donc il y a aussi crise économique. Tout le temps on nous fait peur. Tout le temps on nous dit, est-ce qu'on va être payé? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que la France va s'en sortir? Donc récession, chômage, instabilité économique et tout ça. Mais aussi il y a la catastrophe naturelle, ben, bien sûr. Climatique, il y a la peur du climat. On nous parle, il pleut tout le temps, il neige, et il y a l'inondation. Oh là 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 là. Mais on nous inonde avec tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a le IA aussi, hein, l'intelligence artificielle qui va piquer le travail de beaucoup de personnes. Mais aussi, on est cyberattaque. Oh là là, on nous fait peur tout le temps, c'est incroyable. Alors, même les médias amplifie ses peurs. Ils veulent nous paralyser, hein, vous avez vu, elles entrent dans nos maisons, nos cœurs, et parfois, même dans notre foi, la peur devient mondiale et contagieuse. C'est incroyable. Mais alors, que dit la Bible sur la peur? C'est ça qu'on doit voir, et que dit Dieu concernant la peur? Et aussi, quelle est la racine de la peur? D'où est venue la peur? Moi, j'aime quand Jésus disait ceci: si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. J'ai pensé un peu, j'ai dit, une des choses au moins qu'on ne peut pas reprocher à un enfant, c'est qu'il n'a pas peur. Un bébé, vous le mettez dans le vide, il n'a pas peur. Alors Jésus comprenait qu'avant qu'il y ait le péché qui rentre dans l'humanité, je suis persuadé qu'Adam et Ève n'avaient pas peur. Ils ne connaissaient pas le mot peur. D'ailleurs, vous le trouvez, c'est dans Genèse. C'est au moment où ils ont péché, hein, ils ont touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Juste après, quand Dieu arrive, il dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Waouh! Donc la peur commence à ce moment-là. C'est à ce moment, quand le péché quand l'humain est devenu conscient du bien et du mal, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? La peur est née avec. Donc depuis ce jour, l'humanité est prisonnière de la peur. Et c'est malheureux. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le contraire de la peur? D'accord? Qui dit mieux? Ce que vous dites est juste. La Bible dit que c'est l'amour. C'est incroyable. L'amour parfait, banni, c'est incroyable. Nous, on a nos définitions humaines. La définition biblique est totalement différente. La définition biblique, elle nous dit, le contraire de l'amour, c'est la peur, et le contraire de la peur, c'est l'amour. C'est ce que tu viens de chanter. Abba Père, c'est ton amour. En fait, c'est l'amour qui donne l'assurance face à la peur. C'est pas le courage. C'est pas être battant. La Bible dit, non. On a déformé la définition. La vraie définition du contraire de la peur s'appelle l'amour. Amen. C'est quand on goûte l'amour que quelque chose se passe. Il y avait la belle-maman de Jean qui disait ceci. Là où il y a l'amour, quand l'amour est absent, elle disait une chose très très intéressante. Là où il y a la peur, le bonheur est absent. C'est ça. Le temps seul est perdu quand l'amour est absent. On perd notre temps quand on vit dans la peur. C'est ça, au fond. C'est quand l'amour est absent, ben, on perd notre temps. Vous savez, tout ce qu'on fait sans résider dans l'amour, ben, et que je veux pas vous garantir, c'est perdre du temps. C'est pour ça, vraiment, le contraire de la peur, c'est l'amour, bibliquement. Donc, c'est dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte ou bannit la crainte, car la crainte, elle donne une sorte de châtiment. » Donc, le fait d'avoir peur, il y a comme une forme de punition qui est liée à la peur. C'est pour ça qu'on souffre quand il y a la peur. On est puni sans le savoir, on n'est même pas conscient. Il y a un endroit de nous et comme agressé inconsciemment. Alors, la Bible ne nie pas que la peur existe. Heureusement, hein? Parce que des grands hommes de Dieu, comme David, il a eu peur. Quand vous voyez Élie, il a eu peur d'une Jézabel qui le poursuivait. Il a eu tellement peur, il l'a fuyé. Ben voyez-vous, malgré sa spiritualité, malgré les choses qu'il a arrêté les cieux pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et quelques, ben la peur l'avait saisi quand même. Les disciples ont eu peur. Quand ils ont vu que la tempête était là, ils étaient dans l'angoisse. Et Jésus dormait, ils disent, mais tu t'inquiètes plus de nous, nous périssons et on a peur, mais qu'est-ce qui te prend? Voyez-vous, la peur, elle est humaine, donc la Bible ne nie pas que la peur existe. Mais j'aime le psaume 56, verset 4 qui dit ceci, « Quand je suis dans la peur, en toi je me confie. » Amen. C'est quand on est dans la peur, en lui on se confie. Mais alors, il y a 4 formes de peur que peut-être les gens n'ont pas identifié clairement. Il y a 4 formes de peur. Ce qu'on appelle la peur, donc première peur que je viens de décrire, qu'on appelle instinctive ou automatique. Ok?
quelqu'un qui va vous faire bouh par derrière, vous paniquez, tout le monde paniquera. Il n'y a pas une personne qui va dire, moi, jamais de la vie, tu peux crier autant. Non, non, tous sont paniques. D'un seul coup, il y a une peur instinctive, automatique. Dès la naissance, l'être humain sursaute. Un bébé, vous faites un bruit énorme. Un tout bébé qui vient de naître, il fait comme ça. C'est incroyable. Parce que c'est inné, c'est à l'intérieur d'un enfant. La peur immédiate. Quand le danger est là, ben, c'est normal que la peur soit. Quand il y a un bruit soudain ou devant le vide, le chute, on en a peur. J'ai vu sur Internet, en Chine, il y a des ponts en miroir, en vitre. Donc les gens, ils ne pensent pas, ils passent, ils sont au milieu, si vous voyez, mais ça fait rire. Ils s'accrochent et tout, ils regardent en bas, ils sont dans la terreur totale. Mais c'est magnifique de voir ça, et moi ça me fait rire, j'ai dit, moi, j'irai pas là-bas. Mais c'est là que tu vois l'instinct d'humain, c'est incroyable, incroyable. Hein? Donc, la première peur de l'humanité naît avec la rupture de la relation avec Dieu, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la première forme de peur, et elle est saine. Parce que, heureusement que souvent, cette peur nous freine, elle nous garde du danger. Amen. Vous vous rendez compte, dans le vide, si vous n'avez pas peur, vous dites, c'est pas grave, et boum, et vous êtes mort. Mais heureusement, cette peur, elle est aussi protective, elle nous protège des dangers aussi, donc elle n'est pas totalement mauvaise en soi quand elle est mise en place comme il se doit. Mais aussi, il y a une deuxième forme de peur qu'on appelle la peur construite par l'expérience. Vous savez, cette peur apprise, des traumatismes éduqués. Ah, vous savez, dernièrement, je priais pour une personne. Ses parents voulaient tellement la protéger et elle avait peur. Ils lui parlaient, tu vas tomber malade, ne sors pas, il fait froid, il fait chaud, il fait... Oh là là là. Et c'est une surprotection. Elle vivait dans une peur telle et elle est malade. Et aujourd'hui, elle a 50 et quelques années. La peur, elle me disait, mais j'ai peur de tout. Et pourtant, les parents n'ont pas fait ça en mal. C'était lui montrer leur affection, leur amour. Et pourtant, cette personne vivait dans cette peur énorme. Mais aussi dans cette forme de blessure qui peut naître par nos passés à cause des paroles que les personnes prononcent sur nous. Tu n'es pas capable, ça c'est pas pour toi. Alors on a peur, quand la réalité vient, on dit « Ah, c'est pas pour moi, moi je suis pas digne de ça ». Et d'un seul coup, cette forme de peur nous paralyse. Et ça, ce sont des peurs apprises avec le temps. C'est pas quelque chose qui est né avec vous, ou qui est inné, mais quelque chose qu'on a appris avec le temps et qui nous paralyse. Donc, les événements traumatisants, des gens ils sont traumatisés. Un de mes amis, qui était médecin, il est parti auprès du Seigneur. Ce garçon, un jour, il était dans un bus. Un train a percuté le bus et il a été projeté. Beaucoup de gens étaient morts, mais lui, il a échappé. Alors, je peux vous dire, quand on traverse un chemin de fer, c'était la trouille de sa vie. Il me dit, Tef, arrête-toi, vas-y, file vite, il ne faut pas s'arrêter, il y a des trains. Mais il est tourmenté. Et cette peur était comme donc un traumatisme qui avait touché sa vie. Et des fois, il y a dans nos vies comme ça, des sortes de traumatismes qui nous ont marqués. Et inconsciemment, on est prisonnier de cette forme de peur à l'intérieur de nous. J'appelle ça donc des peurs construites par l'expérience négatif ou par les paroles des gens ou par les paroles que des parents ont prononcées. Et donc, la honte, tu es nul, c'est mieux que tu sais, c'est mieux pour toi que tu fasses pas ça. Et donc, on est prisonnier de certaines formes de peur et avec le talent et le don que Dieu a mis dans nos vies, on ne peut pas y aller plus loin. Donc, il y a ces sortes de peur. Il y a troisième sorte de peur. Ce que j'appelle la peur du regard des autres. Et ça, c'est des choses en plus, que c'est pas seulement apprises, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a déterminé à l'intérieur de nous, sans le savoir, peur d'être rejeté, donc on aura des attitudes conciliantes, même quand on voit que ce n'est pas bon. C'est peur d'être rejeté par la société, par les gens, par des amis, à l'école. Tout le monde s'habillait de la même manière. Je me rappelle une fois, dans l'école où j'étais quand j'étais petit, c'était un lycée, le seul lycée français qui était dans notre pays. Alors tout le monde avait ses chaussures. Il y avait un de nos amis qui est venu sans chaussures. Et on l'avait entouré autour pour le voir comme s'il venait d'une autre planète Terre. Alors imaginez ce garçon, la peur du rejet qui était dans sa vie. Alors, on se rend pas compte combien on veut se faire racheter. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait beaucoup d'efforts pour se faire accepter par d'autres. Donc, cette forme de peur d'être jugé, de peur de perdre sa sécurité, de peur de perdre d'être bien vu, de peur de ne pas être accepté, de peur d'oser d'être soi-même. Dernièrement, il y avait une chercheuse, elle a dit à l'université, il y avait plein d'étudiants, elle sort comment on appelle ça? Un dossier tout noir. Elle dit, qu'est-ce que vous voyez? Alors tout le monde lui dit, un dossier noir. Il lui dit, d'accord. À commencer maintenant, on va dire que ce dossier est rouge. La personne qui rentre, je vais vous poser des questions, vous allez tous dire que c'est un dossier rouge. Alors voilà. Et un qui est arrivé en retard, il court, il rentre, il s'assoit. Alors elle parle comme ça, elle dit, bon, mes amis, les étudiants, qu'est-ce que j'ai dans la main? Un dossier. Mais quelle couleur a ce dossier? Rouge, ils disent. Et l'autre, il dit rouge, tout le monde. Lui, il se tourne, il regarde tout le monde. Après, la personne, elle lui dit, et vous, jeune homme qui vient de rentrer? Il dit, c'est rouge. C'est incroyable. Il voyait de ses propres yeux, c'était noir. Mais, de peur d'être rejeté, il se reniait au point de dire que c'est rouge. C'est incroyable comment nous sommes. La peur de ne pas être accepté par d'autres. La peur d'être rejeté. Alors, il y a cette forme de peur de la société qu'on appelle peur sociale, jugement et rejet. Donc, c'est le troisième. La quatrième forme de peur, ce qu'on appelle la peur qui est beaucoup plus profonde, la peur existentielle. C'est la peur de la mort. D'ailleurs, je vais vous dire, toutes les religions existent à cause de la peur de la mort. Imaginez si la mort n'existait pas. Si on nous avait dit qu'après la mort, il n'y a rien, ben, tu vas être comme une plante, et ben c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu viendrais à l'église? Tu continuerais à aimer Jésus? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. En fait, la peur paralyse l'humain. Au point d'inventer les religions. Heureusement que j'ai pas de religion. Voyez-vous, la différence de nous, les chrétiens, c'est que nous ne sommes pas prisonniers d'une religion. Alléluia. Nous avons une relation avec celui qui a vaincu quoi? La mort. C'est pourquoi notre attachement vient toujours sur l'histoire de la mort, mais les autres croyaient trouver une solution pour la mort, en disant, ben, après ta mort, tu peux être une vache, tu peux être un lapin, oh, tu peux être une mouche, il ne faut pas la tuer, ça peut être un cousin. Alors imaginez toute l'imagination que les gens ont inventée à cause de la peur de la mort. Et d'autres ont dit, oh, attention, eh ben, écoute, après, si tu veux échapper à la souffrance de la mort, ben, tue les infidèles. Oh, on zigouille tout le monde en disant, ben, au moins, je vais échapper de la mort pour vivre quelque chose de mieux. Alors, toute l'invention de la religion qui est venue à cause de la peur, au fond, c'est tout, la source vient de la peur. C'est incroyable. Et pourtant, le Seigneur est bon et il nous a fait comprendre qu'il a été vainqueur de la mort. Amen. Ressuscité. Donc, le fondement du christianisme n'est pas une religion. Le fondement du christianisme, c'est la résurrection de Jésus-Christ. d'avoir triomphé contre la mort et il est monté à la vie. Vous savez, moi j'imagine quelque chose. C'est comme, la Bible nous dit, là où il y a le péché, il y a la mort. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est incroyable. Ça veut dire, dès qu'il y a le péché, il y a la mort. Dès qu'il y a la mort, il y a le péché. Ils se suivent tout le temps. Alors, comme Dieu ne pouvait pas être atteint par le péché, la Bible nous dit que Dieu s'est fait homme. C'est pour ça la venue de Jésus. C'est pas juste un truc qu'il a voulu venir pour nous éblouir. Non, il y a une raison valable, profonde. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas atteindre Dieu. Donc il fallait qu'il soit homme pour venir. C'est pour ça la Bible nous dit, il s'est fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Voyez, il s'est fait péché exprès pour que la mort, en voyant, en sentant le sang du péché, voyez-vous, quand les animaux ils sentent le sang, la même chose, la mort a vu le péché, il est venu attaquer Jésus, et il est venu rentrer dans Jésus. Mais n'oubliez pas, Jésus est le chemin, la vérité est la vie. La vie ne peut pas être engloutie par la mort. Eh bien, c'est le contraire. Quand la mort a attaqué Jésus et qu'il est venu, la vie a englouti la mort. Alléluia! C'est pour ça, la mort a été vaincue par la vie. Et cette vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, roi de gloire et le rocher des siècles, mort mais ressuscité d'entre les morts. Et donc, notre foi n'est pas basée sur des idées. Notre foi n'est pas basée sur une petite histoire. C'est une histoire extraordinaire. Même la mort a été engloutie par la vie, au même endroit, à la croix. Et donc, depuis ce jour, j'ai plus peur de la mort. La mort est engloutie. J'ai l'auteur de la vie même qui a fait de moi sa demeure. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si du moins tu t'es repenti, si du moins tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si du moins tu lui as fait confiance qu'il est mort, qu'il est ressuscité. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur, que Jésus, sinon, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras quoi? Sauvé. Ça veut dire la mort n'aura aucun droit sur toi. Aucun droit. Donc il a même peur de toi. Amen, amen. Mais c'est nous, malheureusement, comme on n'a pas compris, on a peur de la mort. Et Dieu te dit, mais non, mon ami. Même cette question existentielle a eu une réponse extraordinaire par celui qui est mort et ressuscité, que son nom soit béni. Amen, amen. Donc, la peur de la mort, la peur d'être seul. Aujourd'hui, souffrance, c'est cette peur, hein, cette peur. J'appelle ça la peur la plus profonde, c'est l'existentiel, la peur d'être seul, de mourir seul, de rester seul. Oh là là! Donc, on a autant peur la mort et la solitude. Voyez-vous? Et pourtant, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'est pas seul. Moi, quand les gens me disent, tu t'ennuies pas seul, je dis, j'ai jamais été seul. Depuis que j'ai accueilli Jésus, je suis avec lui, lui avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, je ne suis pas seul. Amen. Donc, la peur même que le diable nous ment tout le temps en te disant, mais t'es seul, qui t'intéresse à toi, qui a des regards pour toi? Eh bien non, t'es pas seul, Christ est avec toi. Mais aussi, peur de la vie, de ne pas avoir un sens à sa vie. Il y a des gens qui s'ennuient, qui disent, oh là là, oh, je ne trouve pas un sens à la vie. Avant de rencontrer Jésus, c'était ma question. J'ai dit, c'est quoi la vie? Manger, boire, grandir, se marier, avoir des enfants, vieillir et mourir. Eh bien, c'était mes questions. Peut-être que vous connaissez l'histoire de Georges l'Insensé. Je ne sais pas si je vous ai parlé de Georges l'Insensé. Georges l'Insensé, un jour, il était en plein... Un tout jeune, le matin très tôt, il marche, il marche, et d'un seul coup, l'ange de la mort est venu. Ah, il l'a vu, il était en la panique totale, il était angoissé, il lui dit, il a commencé à souffler, il lui dit, mais pourquoi t'as peur? Il lui dit, mais attends, devant l'ange de la mort, qui n'a pas peur? Tu es tellement laid! Tu es tellement moche! Eh bien, écoute, c'est normal que j'ai peur de toi, il lui fait. Il lui dit, écoute, t'inquiète pas, je ne viens pas te chercher sans t'avertir. Oh, ça l'a rassuré, il lui dit, c'est vrai, je te le promets, je viens toujours, je t'avertis d'avance, je ne viens pas comme ça. Oh, il était content. Voilà, lui, il checkait chaque jour sa boîte aux lettres s'il n'y avait pas un avertissement. Et il voyait son email pour voir s'il n'y a pas eu une parole qui est venue. Mais bon, des temps sont passés. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a un peu, même à un moment, il a commencé à vieillir, il marchait comme ça. Et il aimait jardiner, alors il était à genoux, il dit, ben, la mort m'avait promis qu'elle allait m'avertir avant de venir, mais je la vois pas, c'est incroyable. Quel menteur, cet ange de mort, oh là là. Et il râlait comme ça, et d'un seul coup, l'ange de la mort est venu. Alors il était encore plus terrifié que le premier jour qu'il l'a rencontré. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit. « Mais tu m'avais promis que tu allais m'avertir. Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Il lui dit, « Ah ben si, je t'ai averti. » Lui, « Mais pas du tout. J'ai checké mon email, j'ai vu mon téléphone, j'ai vu mon SMS, j'ai vu toute ma boîte aux lettres, il n'y a rien qui se passe. Et comment tu me dis que tu m'as averti ?»« Mais que si je t'ai averti ?» Tu te rappelles, il lui dit, « Avant tes cheveux étaient noirs. Regarde tes cheveux, ils sont tout blancs. Je t'avais averti. Avant, tu écoutais bien. Aujourd'hui, tu as un appareil. » T'as vu? Je t'ai averti. Avant, tu mangeais la viande avec force. Aujourd'hui, tu bois que de la soupe. Mais je t'avais averti. Insensé, Georges. Viens avec moi. Il lui fait, bam, il le prend et il est parti avec lui. La peur, voyez-vous, quand on n'a pas Christ, combien on peut être terrifié et face à la mort. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'une autre forme de peur qu'on n'a jamais mes pensées. Planquer, moi j'appelle ça la peur qui nage en apnée. Vous connaissez la peur en apnée? Ouh, celui-là. Et tout le monde est prisonnier de cette forme de peur qui nage en apnée. Oh là là, il sait très 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 bien nager. Et on n'est même pas conscient qu'on a peur. Si je vous dis, vous avez peur de quelque chose, je suis sûr, vous allez dire, mais moi, qui crois en Christ, pas question. Moi, avoir peur? Non, 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 tu rigoles. Tu rêves, j'ai pas peur. Eh bien, tu parles. On a tous une peur qu'on appelle la peur dominante ou la peur planquée. Vous savez, cette peur planquée, waouh, combien elle fait du mal dans la vie. Alors, tous nous avons peur de quelque chose, c'est vrai, c'est sur ça qu'on parle. Tous nous avons différentes sortes de peurs, c'est vrai, c'est ce qu'on avait vu aussi. Tous nous avons peur d'être exploité, d'être rejeté, ce que j'ai parlé tout à l'heure, malade, de perdre son travail, toute forme de peur qui peut nous frapper. C'est vrai, la peur impacte beaucoup de choses dans nos vies. Ça peut impacter ta destinée. Vous savez, on ne se rend pas compte. Et si on réfléchit en disant, quelle peur a impacté dans ma destinée? Tout à l'heure, on va voir, pour que vous le montiez à la lumière, cette peur qui a impacté sur votre destinée. Il y en a d'autres formes de peur qui ont impacté tes relations. Mais tu regrettes, tu dis, pourquoi j'ai toujours une mauvaise relation avec telle ou telle personne? Et pourtant, je suis chrétien, j'aime Jésus, j'ai pardonné. Et mais pourtant, j'étais impacté par cette... Et au fond, nous, on donne comme si c'était, elle était amère, elle était... On donne beaucoup de réponses, mais la racine de ça s'appelle la peur. Mais aussi, impacter dans ta famille. Cette peur peut impacter ta famille. On n'est pas conscient. Et peut impacter ton argent, tes finances. Et peut impacter ton église. Elle peut impacter ta santé. Il y a des gens, j'ai connu une personne, chaque fois qu'elle a une petite douleur, il faut qu'elle aille voir le médecin. Au point que les médecins en ont marre de la voir. Elle dit, ah j'ai mal, ça doit être cancer. Elle va. Alors, ils font du sang. Il lui dit, monsieur, vous êtes jeune, mais vous êtes tout jeune. Il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, pas question. Toute douleur, il vérifie jour et nuit que quelque chose se passe. C'est incroyable. Impacté par cette peur de la santé, que j'aurai quelque chose de problème. Donc, le diable utilise cette arme contre l'humanité depuis la nuit des temps. C'est son arme préférée et très, très, très sournoise comme arme et qu'on n'est pas conscient. Les scientifiques disent 99% de nos peurs n'arrivent pas. C'est magnifique, ça. C'est une bonne nouvelle. Vous vous rendez compte, 99% de tes peurs ne t'arrivent pas. Il n'y a que 1% seul qui peut nous arriver. Ah, c'est bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ah ben, j'espère, hein, vous êtes tous calmes, on dirait, c'est 99% de peur dans lequel vous vivez. Alors, je vous parle aujourd'hui de ce 1%, la peur dominante, c'est ça. Pourtant, la peur n'a rien de réel. N'avez-vous pas remarqué? La peur est dans l'imagination. C'est fou. Comment on est prisonnier sans le savoir? Tout est dans l'imagination. D'abord, tu l'imagines. D'ailleurs, si je vous dis voiture, je viens de vous dire voiture. Chacun a vu différentes sortes de voitures dans sa tête. L'imagination, voyez-vous, une parole est toujours imagée. Les pensées qu'on reçoit sont imagées. Des fois, on est impacté par une image. Le diable, il sait comment refléter. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Il n'a aucun pouvoir, les gens ne savent pas ça. Il a un seul pouvoir, le pouvoir d'influencer. C'est tout ce qu'il a. Lisez la Bible, vous allez être surpris. Ève a été, quoi, influencée. Elle s'est explosée par sa foi. Elle a tellement cru que ça lui est arrivé. Elle l'a fait, elle lui a cru à lui, au lieu de croire à son père. Qui lui a dit, touche pas ça, c'est dangereux, c'est une arme, c'est une bombe atomique, ça va exploser entre tes mains, tu vas disparaître. Non, non. Et l'autre lui dit, mais tu sais, tu vas être comme Dieu. Et pourtant, si vous lisez le texte de Genèse, il nous dit ceci, Dieu créa l'humain à son image. Donc, tu étais déjà à son image. Qu'est-ce que tu as besoin d'ajouter autre chose? Tu étais créé à son image. Et pourtant, il lui dit, tu seras comme Dieu. Oh, elle est éblouie. Donc, moi, j'appelle, c'est l'influenceur par excellence. Hein? C'est celui qui fait la publicité, une publicité énorme. Et donc, il a noyé son cœur par le mensonge. C'est pour ça qu'il est comme un lion rugissant. C'est un bon film. Vous savez, quand vous faites un péché et que vous vous repentez, la Bible nous dit, Dieu jette ton péché dans l'océan de l'oubli. Amen. Je vais vous dire autre chose. Même les démons n'ont pas accès pour savoir la chose où tu t'es repenti, ils n'ont pas accès de venir le voir. C'est effacé. La seule personne qui n'efface pas ça, c'est toi-même. C'est toi-même qui amène à la lumière quelque chose que Dieu a déjà effacé. Donc, tu fouilles la poubelle. Tu cherches un dossier dans la poubelle. Tu regardes, et le diable regarde avec toi, il dit, oh, ah bon, je ne le savais pas, j'étais pas au courant. Et on se fait avoir, et souvent on retombe sur les mêmes problèmes à cause de cela. Et pourtant, notre Dieu, quand il dit, je t'ai pardonné. Imaginez, Dieu qui dit 7 fois, 70 fois, pardonner à des humains, si lui ne te pardonne pas, mais quel Dieu serait-il? Si à un humain, il demande 7 fois, 70 fois de pardonner, pas par semaine, pas par an, par jour. 490 fois, quelqu'un te fait toutes les bêtises possibles, il te demande pardon, eh bien, pardonne-lui, dit le Seigneur. Si lui demande ça, à combien plus forte raison? Lui. Amen. Si tu viens sincèrement à lui, Seigneur, je te demande pardon. Lave-moi, je ne veux plus revenir sur ça. Aide-moi. Amen. Et quand tu lui dis ça, il peut venir t'aider, que son nom soit béni. Il ne t'accuse pas, il t'instruit, que son nom soit béni. Amen. C'est l'instructeur par excellence. Alors, la peur, pourtant la peur n'a rien de réel. La peur prend souvent son départ dans notre imagination. C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous dire, voiture, et d'un seul coup vous avez vu une voiture rouge, d'autres un Batmobile, chacun a vu sa voiture. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, j'ai dit que juste... Donc, l'image, l'imagination joue un rôle énorme. Ce que nous imaginons, c'est que la peur, comme tout le reste, n'est qu'un choix. La peur est un choix. Un jour, mon fils m'a dit, « Papa, la peur est un choix, même si la situation est réelle. » Il avait vu, je crois, un film, il m'a dit ça. Il m'a dit, « Papa, la peur est un choix. » même si la réalité est là. Choisis de ne pas avoir peur. Ah, il m'a surpris en disant ça, et j'étais content de l'entendre, voyez-vous. Alors, quels sont les signes de cette peur dominante au fond de nous? Alors, il y a, dans Genèse chapitre 3, verset 10, la Bible nous dit, Adam se cacha. Il y a des gens, toujours, ils se cachent tout le temps. Même si vous leur posez la question, mais pourquoi tu te caches? Elles n'ont pas la réponse. Vous n'avez pas remarqué? Adam, la Bible nous dit, à cause de la peur, la première pensée, la peur dominante, quelquefois, c'est de se cacher. On ne sait même pas la raison de notre cachotterie. On n'arrive même pas à définir pourquoi on se cache, pourquoi on ne veut pas que les autres nous voient. On ne pense pas qu'on a peur. On dit, moi, j'aime pas. J'aime pas hein, quand les gens sont là, parler devant tout le monde. J'aime pas. Vous n'allez pas dire j'ai peur. Vous allez dire j'aime pas. Moi, j'aimais pas parler devant tout le monde. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était la peur. La peur du jugement des autres. La peur de dire, ah ben, écoute, le français, quelquefois, j'ai fait des fautes. Comment ils vont penser à moi? Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Je parle maintenant plusieurs langues. Je parle en langue déjà. Je parle anglais, je parle français, je parle éthiopien, je comprends d'autres langues, voyez-vous. Mais j'ai dit, mais qui ose me critiquer si lui il sait parler les 3-4 langues que moi je sais parler. Donc ça a calmé ma conscience et ça a libéré ma vie de cette peur du regard ou de cette peur qui peut être dans nos vies. Donc c'est ça qu'on doit comprendre. Le premier signe, vous le trouvez avec Abraham. En fait, avec Adam. Mais il n'y avait pas qu'Adam. Les grands hommes que vous admirez dans la Bible, comme Abraham. Vous savez, Abraham, dans Genèse chapitre 20, versets 10 à 11, on peut sortir ça? Dans Genèse chapitre 20, versets 10 à 11, Abraham, il a eu tellement peur qu'il a dit que sa femme était sa sœur. Abimélec dit encore à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Abraham répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on me traiterait à cause de ma femme. Donc c'est au verset 9 que vous trouvez, il a eu peur et il dit, c'est ma sœur, au lieu de dire que c'est ma femme. Pourtant un homme de Dieu, pourtant un homme qui avait une relation avec Dieu profonde. Voyez-vous? Même Abraham. Donc la peur, qu'est-ce qui nous... Un des signes, c'est quoi? C'est mentir. Donc, il a menti. Donc, c'est un des signes d'être esclave de la peur. Donc, se cacher, avoir menti. Isaac a eu un héritage, le même héritage. Vous lisez Genèse chapitre 26, verset 9 à 10. Genèse chapitre 26, verset 9 à 10. Isaac a menti comme son père. Incroyable. Abimélec fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause de la peur. Encore, voyez-vous? Donc, il y a des peurs qu'on a héritées de nos parents. On n'est même pas conscient. Des fois, on est esclave de certaines formes de peur qui sont rattachées dans notre mémoire génétique et qu'on peut subir les mêmes choses. Et donc, c'est ça que j'appelle des peurs sournoises et des peurs qui savent nager dans un apnée et on n'est même pas conscient. On dit, mais pourquoi moi, j'ai jamais eu de problème? Pourquoi j'ai fait ça? Donc, ça peut être une peur sournoise liée qui est un héritage, un mensonge et qu'il a hérité de son père, donc d'Abraham. Mais aussi Jacob. Jacob, il avait la peur du rejet, parce que lui voulait avoir la première place. Comme son aîné, enfin, c'était des jumeaux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette guerre? Vous trouvez dans Genèse chapitre 27, verset 36. Donc, on l'appelait le tricheur. Vous savez, les gens qui ont peur trichent toujours. Ils ne sont même pas conscients. Ils ne pensent pas qu'ils trichent. Ils disent, ben, tout le monde le fait, je le fais. Voyez-vous comment on s'arrange? Tout le monde le dit, moi je le dis aussi. Donc voler, tricher, arranger les choses, ça c'est une des peurs qui sont cachées au fond de nous et on n'est même pas conscient. Job, il avait peur de perdre tout. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait ? Il essayait de soudoyer Dieu. Vous savez, des fois, on donne des cadeaux juste pour apaiser ou pour être accepté ou aimé. Vous trouvez Job, chapitre 3, verset 24. Il dit, la peur de perdre tout, parce que ses enfants, il disait, de peur que mes enfants aient péché, il faisait le sacrifice. Alors il disait au Seigneur, ne regarde pas le problème de mes enfants, regarde le sacrifice. Il voulait soudoyer même Dieu. Au point que le diable a vu ça, il est venu voir le père, il a dit, « Eh bien, tu le protèges trop, hein. Il passe son temps chez moi. Je lui fais boum, il a peur. Et en plus, il a plus confiance en moi qui lui dit, je vais tuer tes enfants, tes enfants, oh, il a eu panique. Vite, il te soudoie en donnant le sacrifice. Pourquoi tu donnes ta dîme? Pourquoi tu donnes tes offrandes? C'est pour dire au Seigneur, allez, je donne, tu donnes. C'est quoi? Voyez-vous, on donne avec amour. On ne nous donne pas par peur, ou pour soudoyer en disant, tu as vu ce que j'ai fait, hein? C'est moi, hein? Les autres ne l'ont pas vu, mais moi, oh là là, je t'ai donné, hein? Et tu pourvois. Voyez-vous comment on est? Et c'est ça qu'on doit voir, la profondeur de notre cœur. Pourquoi tu donnes? Pourquoi on fait ce sacrifice? Au point que le diable a eu accès dans sa maison. Il y a des gens, quand ils lisent Job, ils pensent que Dieu a dit, « Bon, Job, tiens, il va être mon pion. Pion, Job, Satan ici, on va voir qui va gagner. » Ce n'est pas ça l'histoire de Job. C'est lui-même qui a ouvert la porte. Vous trouvez dans Job chapitre 3, il dit, « Ce que je crains m'a atteint, ce que je redoute m'a saisi. » Lisez-le, chapitre 3, juste les derniers passages. C'est ce que je crains, matin. Ce que je redoute m'est arrivé. C'est ce qu'il redoute. Ça veut dire, déjà, la peur était dans son cœur. Et qu'est-ce que ça crée? Être quelqu'un qui manipule les gens. La manipulation, c'est un des signes de quoi? De la peur. Des gens qui essayent de manipuler Dieu, de manipuler... Mais imaginez, si lui, il a essayé de manipuler Dieu, à combien plus forte raison les humains? Donc que Dieu nous garde, il nous donne une autre attitude de cœur pour ça. Saül avait peur de perdre sa place. Et qu'est-ce que ça a fait de lui? Un meurtrier. Voyez-vous, un des signes, c'est quoi? Cruauté. L'histoire de Saül est là à cause de la peur de David. Il est devenu cruel, il est devenu occulte, il est devenu injuste, la folie l'a atteint. La peur, jusqu'où ça va? Ce sont des signes. Moi, je dis, quand je vois des gens cruels, je dis, mais il y a quelque chose qui a la peur. C'est pas comme ça. Et vous avez, voyez-vous, des signes que Dieu nous montre, que des peurs cachées au fond de nous, on n'est même pas conscient, et qui peut être, vous pouvez voir ces signes. La cruauté. Aimer les choses occultes, voyez-vous. Il est allé consulter cette voyante, cette femme qui appelle les morts, voyez-vous. Et plus tard, il est devenu injuste. Des gens qui ne lui ont rien fait, ces prêtres qui étaient honnêtes, il les a fait tuer juste en disant, vous étiez avec David, vous, je vous tue. Quelle injustice! Son cœur devient injuste. Et donc, l'injustice aussi, c'est un des signes de la peur sournoise que j'appelle la peur dominante. Mais aussi la folie l'a atteint. Il a perdu sa tête, ça veut dire qu'il est devenu, comment on appelle, deux comportements bipolaires. À un moment, il est joyeux, il est gai, à l'autre moment, vous ne savez plus par quel pied danser avec lui. Eh bien, c'est incroyable. Mais aussi David aussi, l'homme fort, vivait dans la peur. Vous savez, la peur de David, c'était quoi? Il avait peur de perdre l'affection de ses enfants. Il est devenu, quoi? J'appelle ça un homme qui était laxiste. Vous savez, dans nos familles, quand on devient laxiste, c'est qu'on a peur de perdre leur amour. Mais vous allez perdre quand même. Au lieu d'être ferme. Voyez-vous, un de ses fils, qui s'appelle Amon, il couche avec la sœur d'Absalom. Selon la loi, il devait être tué. Ou il devait se marier avec elle. Peut-être pas tué, mais se marier avec elle, puisqu'il avait violé une fille, et selon la loi juive, il fallait qu'il la prenne pour femme. Il n'y avait pas question qu'elle soit déshonorée comme ça. Et le garçon, il chasse la sœur d'Absalom, Tamar, et il se moque d'elle, et tout ça, et tout ça. Et le père ne dit rien. Et ça crée dans le cœur d'Absalom la colère. Quelle justice alors ! Donc il a voulu à tout prix renverser son père, vous connaissez toute l'histoire, il attaque même son père, il a eu un changement dans le cœur de ce garçon. Pourquoi ? À cause de laxisme de son père, à cause de ce père qui voulait seulement gagner l'affection de ses enfants malgré les choses injustes qui se passent. Ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter cher ce laxisme, c'est une peur au fond. C'est une peur de le « Oh, si je lui dis ça, il va être triste, il va être triste. Oh non, non, il ne va plus m'aimer. » Eh bien, demain, il va te reprocher en disant « Pourquoi n'as-tu pas été ferme ? Pourquoi n'as-tu pas repris ? Hein ? Pourquoi ?» Moi, j'ai vu des parents qui étaient sévères. Les enfants aimaient ses parents plus tard en disant « Heureusement, papa m'a obligé à jouer le piano. Aujourd'hui, je sais jouer, je suis... Il m'a obligé à faire mes études. » Mais on a vu des gens, au début, qui reprochaient les parents, et plus tard, qui disent « Heureusement qu'il a été ferme et qu'il n'a pas bougé. » Donc, le laxisme, c'est un des signes de la peur. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, les symptômes, c'est quoi ? Les symptômes de tout ce que je viens de vous décrire, c'est l'insomnie, quand tu perds trop le sommeil. Pas toujours automatiquement que ça, mais au moins c'est un des signes. Quand des gens vivent dans cette forme de peur, il y a l'insomnie, la perte d'appétit, ça peut avoir aussi. C'est la déconcentration, c'est un autre symptôme qui peut être aussi. L'irritabilité, les gens qui sont toujours irritables, irrités, tout ça pour rien, pour aucune raison. Hein, et des fois aussi absents, vous leur parlez, ils ne sont pas là. Bonjour, tu tapes à la porte, il n'y a rien qui se passe. Alors, comment faire ? On va faire trois choses. La première, as-tu identifié ta peur dominante ? Dans tout ce que je viens de partager, quelle est ta peur dominante ? As-tu identifié ? Vous savez, la peur de voir l'accident de nos enfants, c'est une peur. Au fond, on ne le dit pas. Hein. On dit, je suis prudente. Tu pas, t'es pas prudente. Tout le temps, tu parles à cette personne. Ah, fais attention. Attends. Calme-toi. Parle autrement. OK ? As-tu identifié ta peur dominante ? Elle est tellement sournoise que tu ne penses pas que c'est vraiment dangereux. C'est ça qui peut démolir ta destinée, qui peut dominer la destinée de tes enfants, la destinée de toute ta vie. Ça peut tout bloquer, on n'est pas conscient. Ce n'est pas pour rien que c'est devenu le premier péché qui a accompagné le péché. J'ai eu peur, je me suis caché. Croyez-moi, c'est une arme destructive qui est très forte. Dans la Bible, on trouve 365 fois, la Bible nous dit « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Ça veut dire chaque jour. Il faut que tu te battes sur cette peur. Et donc, as-tu identifié ta peur ? Donc, la première chose à faire ce matin, c'est « Identifie ta peur ». Amen. Deuxième, réalise qui tu es. Tu es aimé. Hein? Merci pour ce matin, pour cette louange. Tu es aimé par le Père. Je ne le cherchais pas, il s'est laissé trouver. Je ne le priais même pas, il m'a exaucé. Quand tu es aimé, pourquoi tu es prisonnier de la peur ? Donc, reconnais que tu es aimé. Amen. Donc, une fois que tu as identifié, tu dis, je suis aimé de toi. De quoi aurais-je peur ? Pourquoi je ne vais pas parler de ta part avec fermeté ou de faire ce que tu me dis de faire ? Pardonne de cette attitude. Simplement, tu te repens, il ne t'accuse pas. Tu crois, moi, que je suis parfait ? Pas du tout. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens honnêtes. La Bible nous dit, Dieu cherche la vérité dans les cœurs. Il n'a pas dit, je cherche des gens parfaits. Il sait qu'on n'est pas parfait. Il cherche des gens honnêtes, qui savent se parler à soi-même, qui savent se dire, eh bien, écoute. OK ? Donc, la deuxième chose, c'est, qui es-tu aux yeux de Dieu ? Seigneur, qui suis-je à tes yeux ? Je t'ai aimé au point de devenir mourir pour toi. C'est ça ce qu'il va te dire. je t'aime tellement, je suis prêt à payer le prix pour toi. Ben, quand tu as cet amour, la peur, la mort, l'amour détruit la peur. Amen. Donc connaître qui tu es, c'est la deuxième chose. Troisième, apprends à parler à ta peur. J'aime le psalmiste, le psaume 131, verset 2 nous dit ceci, « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Se parler. On ne se parle pas souvent. On accuse les autres, on dit « Ouais, ils sont meilleurs, je quitte, je vais partir. » Mais on ne part pas. Partout où tu vas, cette peur de toute manière t'accompagne. Et bien tu vas avoir les mêmes problèmes partout. Laisse tomber la neige. Hein? Il vaudrait mieux le régler en te parlant à toi-même. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. On se parle. Tais-toi. Eh bien, il va réagir. Ben, c'est pas grave. Ben, je le ferai. Eh bien, si vous avez cette détermination de ne plus être esclave de votre peur, d'un seul coup, Dieu commence à travailler avec vous. C'est pour ça, la Bible nous dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Souvent, je parle comme ça à moi-même. Je dis, Tef, calme-toi. Laisse tomber. De toute manière, en s'inquiétant, qu'est-ce que tu vas changer? Amen. Et donc, d'un seul coup, se parler à soi, c'est une chose importante. Quatrième. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ce que je vous conseille, parlez à votre peur en langue. Elle va disparaître. Apprenez à parler en langue sur cette chose qui vous tourmente. Quand vous êtes oppressé à la poitrine, c'est là qu'il faut parler en langue. Parce que c'est la prière parfaite, selon le cœur de Dieu, qui vient attaquer ces peurs dans ta vie. C'est une clé extraordinaire. Voyez-vous, être baptisé du Saint-Esprit, c'est pas juste de balbutier quelques mots. C'est pas pour rien qu'il a été donné. C'est un fondement énorme. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire, qu'est-ce que tu édifies? Tu détruis ces œuvres qui pèsent dans ton cœur, qui t'agressent à l'intérieur de toi. Donc, si tu es baptisé du Saint-Esprit, en parlant en langue, tu apaises cette peur. Et d'un seul coup, c'est comme si elle te quitte. OK? Alors, on va se lever si vous voulez bien. Une fois que tu as parlé, je vous ajoute un cinquième cadeau. Vous avez le droit de le chasser. Toi qui me tourmentes par cette peur, toi qui me paralyses par cette peur, je te chasse de ma vie, sors de ma vie. Tu arrêtes de me torturer, de me tourmenter, de me tenir esclave. Que le Seigneur te reprime, sors de ma vie. Et tu peux parler à ça. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, première chose? Identifie ta peur. Deuxième, sache que tu es aimé. Troisième, allez. Parle à toi-même. Quatrième, parle en langue. Cinquième, chasse-moi ça. C'est bon? C'est à votre portée. Je le fais, tu peux le faire et tu vas avoir le fruit. Alléluia. Et les choses qui t'ont emprisonné tant d'années, tu commences à avoir une ouverture. Et tu peux racheter le temps. C'est incroyable. À un clin d'œil, quelque chose peut se passer. À un clin d'œil, fais-le, c'est à ta portée. On va fermer nos yeux. On va parler à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Cette racine, cette arme étonnante que le diable utilise sournoisement sur mes frères et sur mes sœurs. Merci d'être la solution. Tu es la solution par excellence, cher Saint-Esprit. Seigneur, si j'ai partagé ça, c'est que tu veux libérer ton peuple de cette prison, que cette arme qui tient et qui paralyse leur vie. La peur du lendemain, la peur de grandir en temps, la peur, toute forme de peur qu'on n'est même pas conscient. Seigneur, merci de nous donner. Et c'est les signes que je leur ai donnés, Seigneur, que tu m'as permis de partager à eux, que ça fasse, que ça monte à la lumière des choses cachées dans les cœurs. Merci d'aider mes frères, mes sœurs, ce matin. Et que personne ne sort les mains vides. Et que tu restaures leur vie. Et qu'ils sachent et qu'ils goûtent l'amour du Père. Être aimé, la signification soit profonde. C'est pas une émotion, c'est la vie avec Dieu lui-même. Seigneur, la compréhension de qui tu es au fond de nous. Sois béni, toi, le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Alors, je vous donne quelques minutes. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pain et le vin, je crois, c'est ça, tout à l'heure. Alors, on peut, dans ce temps, on va prendre le pain et le vin, on le gardera dans la main, je laisserai, chère Marie-André, votre pasteur, à bénir ce temps, avec Jean, Jean aussi, c'est ça, vous êtes ensemble? En tout cas, je ne sais pas, en tout cas, on va vous bénir, vous allez le prendre et vous allez penser ce que je viens de partager. Première chose, j'identifie. C'est quoi qui m'a paralysé? Souvent, qui a détruit ma destinée. Souvent, qui a fait en sorte que je ne réussissais pas dans ma vie. Que je ne sois pas un serviteur de Dieu, une servante de Dieu fervente. Amen. Vous allez identifier. Donc, après avoir pris ça, la Bible nous dit, son sang restaure. Alléluia. Son sang mange tout ce qui est, amen, engloutit toute la peur dans nos vies. Que son nom soit béni. Et en le prenant, tu reçois ta guérison. Et tu crois de tout ton cœur que le fait de lui demander, celui qui a planté des oreilles, il a entendu. Si tu l'as fait de tout ton cœur, ben tu es exaucé. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu écoute la prière de tous les hommes qui le cherchent. Amen. Si tu le cherches de tout ton cœur, il écoute, il t'exauce. Même si tu ne le sens pas tout de suite, de quelque chose se passe. Parce que d'ailleurs, foi, ce n'est pas sentir, c'est savoir. Amen. L'amour, on le sait, on ne le sent pas. Amen. L'amour de Dieu, on le sait, on ne le sent pas. On le sait. Je suis aimé. Je suis aimé. Amen. Je ne dis pas je le sens, non, je le suis. Je suis aimé. Alors, je laisse toute la place à un bien-aimé maintenant. Donc, on le prendra ensemble. Hein? Vous ne le prenez pas tout seul. C'est bien de le prendre ensemble, c'est important. Mais on va identifier. Telle chose, souvent me piège. Souvent j'étais piégé chaque fois quand cette situation se lève. Et vous venez vous identifier ce qui ne va pas. OK ?